Nous fêtons aujourd'hui Saint-Hildegarde.
Ah bon?
Le 17 du mois de septembre. Le 17. Et docteur de l'Église. De sorte que toute l'Apocalypse de Saint-Hildegarde a été ouverte par le pape. Pape régnant, hein. Ils sont trois papes régnants aujourd'hui. A été ouverte par le pape. Une fois qu'il l'a déclaré docteur de l'Église, il a décidé de laisser la place. Et puis il a été un pape en prière, quoi. Et puis quand il est décédé, après que sa prière silencieuse ait pu ouvrir le pouvoir des clés sur la terre et dans les cieux, l'entrée de la Sainte Famille crucifiée dans la Sainte Famille glorieuse, du coup, pendant 2 jours, il s'en est réjoui, il en a reçu les forces. Et le 3e jour, il est parti. Pour que le pouvoir des clés, la pierre angulaire, puisse pénétrer dans celui qui est au-dessus depuis 5000 ans, 6000 ans, en tant que représentant du Christ, de tout le monde angélique. C'est vrai, c'est beau ça, de voir ça. Et aujourd'hui, Saint-Hildegarde, mais explique tout ça. L'Apocalypse de Saint-Hildegarde, c'est un bras de levier qui permet d'entendre l'Apocalypse de Saint-Jean. L'heure est arrivée. Saint-Hildegarde. Et puis en plus, c'est le 17 septembre. Et enfin, c'est le combienième dimanche ? Le 24e dimanche, le Verbe de Dieu est donné à travers la croix, après sa mort. La croix de Jésus s'est ouverte, après la mort de Jésus sur la croix, et Dieu n'a plus donné son Messie, son notre Rédempteur au monde. Il a donné le Verbe directement. Parce que le corps ouvert de Jésus subsiste dans la personne du Verbe. C'est pour ça que c'est une très lointaine foi infaillible qui a fait que dans le Coran, ça a été traduit de la manière suivante. Sidna Issa n'est pas mort sur la croix. Il n'est mort qu'apparemment. Ce qui est tout à fait exact. Puisque le corps mort de Jésus, et ça c'est saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, saint Hildegarde aussi, le corps de Jésus sur la croix, une fois qu'il est mort, il est incorruptible et rempli, envahi, mais complètement, et complètement, pas seulement substantiellement, complètement, subsistentiellement, il est envahi et il est vivant de la vie de la deuxième hypostase de la très sainte Trinité. Le Verbe de Dieu fait vivre le corps cadavérique du Christ, lui donne son unité. Et donc quand on donne un coup de lance une demi-heure après, la seule blessure mortelle atteint non pas l'âme du Christ Rédempteur, notre Seigneur, mais atteint la personne même de Dieu en son hypostase. Et du coup, c'est à travers la blessure du cœur que Dieu est donné dans sa vie éternelle, intime, personnelle, et éternelle. Et donc, il se donne en tant que, avec toutes ses intériorités éternelles, à travers ça, à celui qui peut le recevoir. En cet instant-là, Marie est la seule, puisqu'elle sait, puisque c'est elle qui l'a engendré, que c'est l'hypostase même du Dieu vivant. Mais cette fois-ci, à l'intérieur de Dieu le Père, avec Saint Joseph, à cause de Saint Gloire Sponsal, et bien pendant ces 2 jours, il y a 1, 2 et 3. C'est la sponsalité, ça. Et du coup, effectivement, le ciel se déchire, le rideau du temple se déchire, et c'est tout ce qui est intérieur à la vie intime de chacune des personnes de la très sainte Trinité qui envahit la croix rédemptrice, hein, mystère de compassion. Mais comme Saint Jean l'avait pris, elle, aussitôt à l'intérieur de lui, qu'il avait lui aussi touché le fond de la divinité du Christ dans son cœur au moment de l'institution du sacrifice jusqu'à la fin du monde, il y avait de quoi chez lui recevoir, il avait été conçu d'ailleurs dans cette bénédiction primordiale pour ça. Enfin, tout ça, on le sait bien. Mais le mystère, donc, le cinquième mystère douloureux, c'est un mystère joyeux. Réjouissez-vous. C'est Marie et Jean, parce que le sacerdoce éternel, de victimation éternelle, a aspiré les deux témoins de l'Apocalypse, si vous voulez, dans leur plénitude d'accomplissement, hein, tout ça c'était dans l'âme de Saint Jean, que Marie engendrait dans le Verbe de Dieu. Ce qui s'est passé là, dans cette espèce de... dans ce moment-là, ça ne peut pas être expliqué, mais ça peut être touché. Hein, on peut toucher ça. Et une fois que vous touchez ça, aspirez dedans. Une fois aspiré dedans, transformez en cela. Alors s'ouvre le monde nouveau. Et le règne du Sacré-Cœur, c'est plus que sept fois. C'est sept fois le principe primordial de chacune des trois personnes de la Très Sainte Trinité. 17, hein, c'est le septième chiffre premier. Et 70 fois, parce que Marie a vécu ça depuis sa conception. Et de plus en plus, à chaque fois, à chaque moment, si je puis dire, elle a vécu ça au centuple, plus puissamment, n'est-ce pas? Et augmentant ainsi sa foi immaculée, libre de la liberté de l'acte pur du Saint-Esprit qui supervenait en elle à chaque fois. Superveniat in te, du dedans de toi, Saint-Esprit, qui est l'acte pur de l'Immaculée Conception, supervenait en elle et a été ramassé dans une humilité encore plus, toujours plus vertigineuse. Hein. Ça donne le vertige, vous savez, quand vous êtes devant un précipice très, 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 très profond. Il y a un phénomène qui est physique, hein. C'est que vous êtes irrésistiblement attiré. Hein. Jamais se mettre au bord d'un précipice profond, vous savez. C'est comme si on vous poussait dedans, hein. C'est, même si vous êtes prévenu. Hein. Les gens qui ont fait la montagne savent ça. Eh bien, le monde angélique est aspiré là, dans le fond de ce mystère, hein, de cette réalité vivante, ce qui se passe à ce moment-là. Et elle a vécu ça autant de fois qu'il y a de création d'images ressemblantes de tout le monde. C'est pour ça que vous voyez, 70, il était 70 dans l'Arche de Noé. Ils étaient 70 lorsqu'ils sont rentrés avec Jacob dans la terre d'Égypte sous l'ombre de Joseph. Ils étaient 70. Ils sont sortis, je ne sais plus combien, 1 million, je crois, 600 000. Et puis quand ils sont sortis ensuite sur la terre d'Israël, ils étaient à nouveau encore multipliés. Mais 70, ça désigne dans la Sainte Écriture toute la nature humaine, toute l'humanité. Donc si tu pardonnes 70 fois, 7 fois, hein, dans le monde primordial du mystère de compassion, et qui est la substance et la condition même de la vérité de la grâce sanctifiante catholique. Hein. Alors, 70 fois, 7 fois, à chaque fois que on pardonne ou qu'on ne pardonne pas son prochain, celui qui est le plus proche de nous, eh bien, on condamne celui qui est le plus proche de nous. Et si tu condamnes celui qui est le plus proche de toi, celui qui est le plus proche de nous, c'est Jésus. C'est la fameuse parabole, bien sûr, comme vous connaissez par cœur, c'est qui mon prochain? C'est qui mon prochain? Et Jésus répond, ben c'est moi. C'est celui qui fait preuve de bonté envers vous. C'est lui le prochain. Et quel est celui qui fait preuve de bonté envers nous? C'est Dieu lui-même, dans l'ouverture du cœur, à l'intérieur de Marie. Ils sont plus proches à nous-mêmes de nous que nous-mêmes à nous-mêmes. Et il y a aussi le fait de aussi. Mais quoi, tu condamnes et tu dis, tiens, il fait une. Celui-là, là, il est pire que Judas, celui-là. Ah, toi, tu es un bon catholique. Hein. Mais là, tous ceux qui ne sont pas comme moi, ben ils sont condamnés hein, à l'enfer. Je connais des gens qui pensent comme ça. Ça sent le roussi, là. Hein? Je sais pas, j'en sais rien, mais il faut pas faire ça. Ils savent pas ce qu'ils font, donc de toute façon, ils seront sauvés. Hein? Il faut pas faire ça. 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on fait les 12 pardons quand on fait oraison. Il faut faire les 12 pardons une fois, deux fois, trois fois. 70 fois, c'est pourquoi pas. Ça prend quoi? 17 secondes hein, de faire les 12 pardons. Il faut faire ça, ouais. Les 12 pardons, pourquoi? Parce que notre mouvement religieux chrétien est un mouvement, c'est un mouvement spirituel de lumière, mais qui est inscrit dans la vertu naturelle de religion. On ne peut pas échapper dans cette vertu naturelle de religion chrétienne à ce désastre de condamner ceux qui ne sont pas comme nous. La religion catholique, la religion bénie, hein, fondée par le Messie en Israël, fondée par la pierre angulaire quand même, et ben, elle est condamnable. C'est vrai ? C'est pas par la religion qu'on est sauvé. La religion s'inscrit dans une vertu d'union à Dieu, dans l'aller-retour, qui est naturelle, désolé. C'est le verbe de Dieu qui est donné dans l'ouverture du cœur. Et ça, c'est pas une religion naturelle. La foi fait exploser la vertu naturelle de religion. La religion catholique n'est pas au-dessus des autres. Mais qui est-ce qui dit ça? Le Concile Vatican II. Mais pourquoi d'où il sort ça, le Concile Vatican II? Dans Saint Thomas d'Aquin. Et Saint Thomas d'Aquin et tout ça. Dans le Concile de Trente, c'est là aussi. Sans Saint Thomas, mais Saint Thomas, d'où est-ce qu'il sort ça, Saint Thomas d'Aquin? Mais d'où est-ce qu'il sort? Mais de la Sainte Écriture. Expliqué par la tradition infaillible des apôtres. C'est l'enseignement de Jésus. De la bouche de Jésus lui-même. Mais ça n'empêche pas que notre religion, c'est la religion catholique. On est tout à fait d'accord. Mais c'est pas parce qu'on est de la religion catholique, on y croit de tout notre cœur, d'ailleurs en plus. On aime la liturgie, elle est belle, elle est plus parfaite que toutes les autres liturgies. Mais c'est la vertu de religion. Et la vertu de religion ne sauve pas parce que c'est une vertu naturelle. C'est une de sept dimensions de l'homme. Et donc, quelque part, toute la force de la transverbération, lorsque c'est le Verbe de Dieu qui nous est donné, et il nous est donné à travers une participation corporelle, vivante à la passion du Christ. Je sais pas, ça vous est. Bien sûr que ça vous est arrivé, mais en effet, c'est bizarre parce que si on fait oraison, bien sûr, parce que on n'y fait plus attention. Mais bien sûr que c'est quand on fait oraison, c'est la passion du Verbe de Dieu à travers ce glaive sensible. Hein, il y a quelque chose de sensible. Hein. Regardez mes mains et mes pieds. C'est pas là que je regarde les mains et les pieds. Quand j'aime Jésus, je me mets à ses pieds. Non, c'est dedans, moi, que Jésus est transpercé. Et ce transpercement, il nous est donné. Hein. Il n'y a pas que Marie qui est transpercée par le glaive de part en part. Et puis de manière sensible, puisque la mort donc, a pénétré, humaine et naturelle, a pénétré en elle, hein, avec la transverbération du glaive dans son cœur de part en part. Hein. La mort naturelle est rentrée en elle. La transverbération, elle est dans tous les chrétiens. S'ils font raison. S'ils vont plus loin que la vertu de religion. S'ils ont la foi. Ça, c'est l'enseignement apostolique de l'Église. C'est la bonne nouvelle. C'est que Dieu s'est donné lui-même en personne. Et quand je fais raison, des mouvements qui viennent de moi sont devenus pour moi insupportables. Donc s'il y a un mouvement qui vient de moi, vite les 12 pardons, hein, d'accord? Parce que il faut se pardonner à soi-même, et il faut pardonner substantiellement, complètement, et il faut demander pardon, jusqu'où je demande pardon. Mais c'est qui demande pardon substantiellement? C'est la transverbération du cœur de Marie qui demande pardon substantiellement. Hein. Et c'est ça qui m'envoie. C'est pour ça que les membres vivants du corps mystique vivant, de Jésus vivant que nous sommes, c'est sûr qu'à l'intérieur de notre âme qui rayonne le corps, on est envahi par la transverbération. Et comme la transverbération est passée par le corps de Jésus, cette transverbération a quelque chose de corporel aussi. Dans le corps spirituel, c'est absolument évident. Dans le monde nouveau, c'est exactement comme ça que ça se passe. Alors du coup, Jésus, quand on fait les 12 pardons, hein, on dit 12 fois, hein, qui est-ce qui demande pardon? C'est le Verbe de Dieu dans la transverbération de mon âme. Et la transverbération de mon âme, et la transverbération du cœur de Marie, et la transverbération de la paternité vivante de Dieu dans son acte créateur, sont trois transverbérations qui sont indissociables les unes des autres. Et effectivement, mais c'est conscient, vous voyez, c'est pas du tout un truc, une gnose, hein. C'est pas une gnose. On est d'une autre race, hein. Saint Luc dit. Ethnos, nous ne sommes plus de la même race, nous sommes des engendrés éternels de Dieu. Parce qu'il s'est donné dans sa personne, en la transverbération. Hein? Donc nous ne sommes plus de race humaine, nous sommes de race divine. Et on voit que Jésus, c'est Dieu, et qui se donne comme tel, et je le reçois. Comme tel, et du coup, je suis de race divine, je suis Dieu, engendré de Dieu. Et donc le Père est en moi, et moi en lui. Et du coup, il émane de là l'unité de toute l'éternelle vie intérieure de la très sainte Trinité dans l'Esprit-Saint. Bon, eh bien, qui peut dire « Je pardonne » Hein, quand on fait les 12 pardons, qui peut dire je pardonne tout?
Jésus.
Qui peut dire je demande pardon pour tout? Qui peut le dire? C'est pas ta sincérité. Ta sincérité fait partie de la vertu de religion, c'est une vertu naturelle. Que tu le fasses dans la vertu de religion, tu peux le faire maximum. Je vous assure que l'hindou, il le fait aussi. C'est quelquefois mieux que toi. Donc c'est pas d'appartenir à la religion catholique. Mais dans la religion catholique, je brise la cruche. Hein. Et dans la croix glorieuse, la cruche est brisée. Hein. de ma religion, et il n'y a plus que la torche de la transverbération. C'est pour ça que l'élévation par l'Église de la Croix Glorieuse, hein, c'est quelque chose de très important. C'est une élévation universelle de tous les membres vivants, du corps mystique vivant, de Jésus vivant, hein, et de recevoir du coup du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de leur unité, de recevoir ce pardon jusqu'à la racine de tout. 70 fois donc, hein. C'est qui reçoit le pardon, le diffuse, hein, et lui donne son accomplissement, son acte, sa plénitude reçue, reçue dans l'éternité, de ce qui scrute profondément chacune des trois personnes de la très sainte Trinité, hein. Et donc, vous voyez, s'il y a un « Ah, vite, un autre mouvement arrive !» C'est quoi ça? Voilà, notre vertu de religion, elle est tenace, hein. Elle s'agrippe, hein, dit, quand même, oh. Alors, comment on s'accroche? On ne veut pas se décrocher de la vertu naturelle, on est des justes après tout, hein, puisqu'on est là, dans la bonne religion. Mais notre religion, elle s'efface. Jésus s'est effacé. Son âme humaine s'est arrachée pour laisser la place, donc, à la transverbération, la transformation, l'absolution et la glorification de toutes les glorifications éternelles de Dieu. Mais ça, c'est pas une vertu de religion qui fait ça. On ne méprise pas la religion catholique. On la méprise pas du tout. Pas du tout. Non seulement on la méprise pas, mais on y adore vraiment le Dieu unique, le Créateur et le Père de tous. La vertu de religion, il n'y a rien de plus grand dans les vertus que la vertu de religion catholique, c'est vrai. Mais ça reste une vertu naturelle. Et il y a dans les autres religions aussi cette même vertu naturelle que la nôtre. Peut-être moins puissante, c'est possible, mais pas toujours. Mais quand le Concile Vatican II proclame ça, ça choque ceux qui sont accrochés à la vertu de religion. Et si ça les choque, ça prouve qu'ils ne sont pas des membres vivants, Jésus vivant, transverbérés dans le mariage spirituel. C'est au moins... Au moins, ça, le regardant, ils peuvent en être absolument certains. Bon, très bien, c'est une miséricorde que fait le Concile Vatican des Envoyés. Regardez là, vous êtes choisis pour aller jusqu'à... Ah oui, mais alors, c'est pas seulement ceux qui sont dans la religion catholique, hein, qui sont appelés à ça. C'est chaque être humain, créé par Dieu, puisque le Verbe de Dieu a commencé à disposer... Hein, à notre conception, et dans la pleine lucidité, nous l'avons vu, nous avons été illuminés par le Verbe de Dieu, lorsque nous avons été unis à la toute puissance du Père sur tout ce qui existe, et cette puissance doit se déployer à travers nous, hein. Et elle s'est effectivement déployée à travers nous pendant au moins les 17 premiers jours de notre conception, ça c'est sûr, c'est le 17 aujourd'hui. C'est le contenu de ce qui fait exploser le 18, 6 et 6. C'est le contenant qui fait exploser le 18. Hein. Garabanda, la date de Garabanda, c'est 18. 17 aujourd'hui, moi j'aime bien 17. Saint-Joseph, c'est le 19. Et Saint-Patrick, c'est le 17. Et à nous deux, on écrase. On fait exploser. 18, 6, 6, 6. Regardez, c'est quand même une chose, ce que dit Jésus, on comprend. Ils étaient scandalisés par Jésus, parce que Jésus a expliqué ce que Dieu révélait. C'est Dieu. Et si on est dans la vertu de religion, c'est vrai, une perfection tout à fait extraordinaire de la vertu de religion, on est scandalisé, quoi. Comment ça? Quelqu'un qui est d'une autre religion peut aller au ciel immédiatement sans passer par le purgatoire? Parce qu'il transverberait jusqu'à la septième demeure? C'est quoi cet enseignement hérétique? Hérétique pour la vertu de religion, mais pas pour la révélation de Dieu à travers la blessure du cœur de Jésus dans le glaive qui transperce. C'est la foi. Mais la foi, cette foi-là, la religion catholique est explicite, mais cette foi-là est implicite. Elle n'en est pas moins vivante. C'est pas le Concile Vatican II, hein. Pape Pie XII, il enseignait ça. Il y a deux encycliques où il explique ça, justement. C'est que la foi implicite est peut-être, est sans doute, beaucoup plus puissante que la foi explicite que nous vivons dans la religion catholique. Donc la transverbération, c'est bien. Si ça nous arrive dans l'oraison, on est d'une immense reconnaissance pour faire partir tout ce qui était, hein, ce qu'il y a dans le cantique des cantiques, pour faire partir tout ce que nous croyons qui était la voie. Mais c'est pas la voie c'est pas celle-là, la ligne pure qui écarte toute. Il faut 70 fois, hein. C'est chaque être humain, hein. Cette foi est parfaitement. Si c'est pas ça, notre foi est stérile. C'est pour ça que nous voyons quelqu'un, on sera surpris, vous savez, parce que les choses vont monter à la surface, et puis pendant environ une demi-heure, nous allons pouvoir entrer dans toutes les âmes, pénétrer dans toutes les âmes, puisque nous, le bon Dieu va nous donner dans la transverbération à nous tous, hein, à nous tous, pas seulement les catholiques, va montrer dans la transverbération à quel point il nous a illuminés dans notre conception, mais ça ne s'est pas arrêté à ce premier instant, puisque l'acte créateur de la paternité vivante de Dieu et de l'illumination du Verbe de Dieu, personne, pas du Christ, mais du Verbe de Dieu, dans chaque être humain, a continuellement duré et même s'est intensifié au cours des âges de notre vie. Tout ça, ça va monter à la surface et on va voir ce qu'on en a fait et on va voir que ceux qui ont la foi implicite ont été beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément, beaucoup plus divinement que ceux qui sont accrochés à la religion. Jamais la religion n'a sauvé personne, parce que c'est une vertu naturelle. Bon, vous saviez tout ça par cœur, bien sûr, mais ça fait du bien de se faire revenir un petit peu à la surface. Il se fait un silence d'environ une demi-heure. Ah, c'est beau ça. Ah, un mouvement qui vient de nous. Tiens, on fait comme ça. On a les pieds par terre, on a les mains posées pour que surtout, voilà, tout se recueille à l'intérieur de nous. Et puis c'est pas notre faute. C'est quand même pas notre faute. On a, tiens, je sais pas ça. Tiens, j'ai un petit mal dans l'os du rocher là. Alors je suis en pleine oraison. C'est un mouvement ça. C'est somatique, hein. Mais c'est un mouvement, il vient de mon corps. Pour moi, je suis chrétien, c'est insupportable. Je ne peux pas accepter un mouvement. Mais il n'est pas volontaire. Et alors? C'est pas de ma faute, je ne l'ai pas voulu. Et alors? Toute la place doit être donnée. Aucun autre mouvement que le souffle de Dieu. Dans toute l'intériorité de Dieu, il doit prendre sa place et n'être le seul mouvement dans mon âme et dans ma chair pendant une demi-heure. Et donc s'il y a un mouvement, vite, allez, avant, prenez 17 secondes pour faire les 12 pas avant, mais faites-le correctement quand même, hein, pour ce mouvement-là, là, ici, hein, ça me fait mal à l'os du rocher. Ne revienne plus jamais. Pour empêcher la divinité intime de l'épouser. la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, dans le feu du Saint-Esprit, Saint-Du-Père, de prendre toute la place dans la transverbération, l'ouverture du cœur qui donne de Jésus, transverbération, et il se donne dans la petite goutte de sang et dans le corps mystique du Verbe de Dieu vivant et entier. Je suis, moi, cette petite goutte de ce sang qui fait qu'il y a une transubstantiation et surtout, dans la transubstantiation, une transactuation et qui fait que le Verbe de Dieu en moi devient épousé éternellement. 70 fois, 7 fois. C'est pas nos œuvres de charité qui nous sauvent. C'est bien, bien sûr, quelqu'un a faim, mais enfin tu vas pas laisser mourir sous tes yeux, non, quand même. Bien sûr, on ne méprise pas du tout la charité humaine, enfin, je sais pas, même si héroïquement quand on s'y met, il faut vraiment une grâce miraculeuse de Dieu pour qu'on puisse le faire, mais c'est possible. Mais ce sont des grâces actuelles, ça, c'est pas la grâce sanctifiante. Hein, ceux qui font du catéchisme, ils le savent bien, aux enfants, puisque la première chose qu'on doit faire comprendre à un enfant, c'est ça. Il y a deux sortes de grâces. Il y a deux sortes de grâces, la grâce actuelle et la grâce sanctifiante. La grâce actuelle, ça vient de Jésus, ça vient du Christ crucifié, ça vient du Saint-Esprit, hein, la grâce actuelle. C'est la vie surnaturelle à l'état pur, mais c'est transitoire. C'est pour le temps où je vais faire un acte de charité vis-à-vis de quelqu'un qui meurt de faim. C'est transitoire. C'est charismatique, si vous voulez. Du coup, on est surnaturellement chrétien. Pendant qu'on fait ça, on a un regard qui pénètre profondément et la personne se convertit. Voilà, très bien. Oh, je suis un saint. Ah non, c'est une grâce actuelle. Ah non, la grâce actuelle n'a jamais sanctifié personne. Mais c'est une grâce surnaturelle venue du Christ, c'est vrai. C'est une grâce que Marie a introduite en nous, en raison des mérites de la Sainte Famille Glorieuse, descendant en nous pour ça. Mais la grâce sanctifiante, c'est pas pareil. La grâce actuelle, elle s'arrête, et puis on passe à autre chose, jusqu'à la prochaine grâce actuelle. Si ta vie chrétienne, c'est de passer d'une grâce actuelle à une autre grâce actuelle, c'est que tu n'as pas la grâce sanctifiante. C'est que tu es encore en état de péché mortel. Mais le baptême nous donne la grâce sanctifiante. L'Eucharistie nourrit cette grâce sanctifiante parce qu'elle n'a aucune cause diminuante, la grâce sanctifiante. Elle ne peut qu'augmenter jusqu'au mariage spirituel accompli. Et c'est quoi ? C'est quoi qui donne la grâce sanctifiante augmentante continuellement? C'est l'oraison. À condition qu'il n'y ait aucun mouvement autre que celui de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire de la grâce incréée en nous, où on donne la permission à l'intimité profonde de Dieu dans son don éternel de prendre toute la place en nous. Vous savez, on mettait un parfum et ça remplit toute la pièce. Il n'y a rien d'autre que ce parfum. Il revient à un autre mouvement. Vite. Et c'est ça l'oraison. L'oraison, au début, c'est de décarter tout ce qui fait qu'on ne veut pas donner la permission au Verbe de Dieu dans la blessure du cœur de Marie en nous. De prendre toute sa place en nous, on ne veut pas, c'est pas notre truc. Hein. Et ça, c'est un péché mortel. Alors, on prend conscience de ça. C'est pour ça qu'il faut les trois pardons, puis les trois pardons à cause de ce péché mortel-là. Ça va ? Et on n'est pas les seuls, donc trois fois encore, parce que tous ceux qui sont tombés dans la même erreur mystique de nous, de confondre la grâce actuelle avec la grâce sanctifiante. Mais c'est complètement dingue. Ça ne veut pas dire que la grâce actuelle n'est pas une infusion et un don irréversible, si je puis dire, de vie surnaturelle, parfaite et divine. Hein. Mais c'est transitoire. Et c'est pas méritoire. C'est pour ça que Marthe, moi j'aimais bien Marthe, On la critique en ce moment en disant Marthe était un escroc. Tu te rends compte? Ah ouais, c'est des vacantistes. Marthe, c'est évident, c'est une escroc. C'est l'escroquerie. Ah ouais. Pas seulement c'est des vacantistes. Hein. Non, moi, je peux vous dire que c'est pas vrai. Elle disait l'oraison prime sur la messe. Parce que le sacrement, c'est la religion instituée par le Christ, on est d'accord. Mais les sacrements sont un moyen pour pénétrer dans le fruit des sacrements qui est la transformation surnaturelle de la grâce sanctifiante. Et celle-ci, elle s'opère dans l'oraison. L'oraison prime sur la messe. J'ai pas eu ma messe aujourd'hui. Donc. Et le soir, t'as pas fait oraison? Ça, c'est très grave. J'en ai fait quand même des choses pour le Seigneur toute la journée. Et j'ai pas fait oraison? Ah! Priorité absolue à l'unité sponsale transactuée surnaturelle de l'oraison. Parce que ça prend de ma conception jusqu'à la conception de la deuxième personne de la très sainte Trinité dans l'unité de la nature divine éternelle de Dieu. Heureusement qu'on va avoir avec nous Élie et Enoch, parce que cette force, toutes ces portes vont s'ouvrir là devant l'évidence, et du coup nous sommes pas de mauvaise volonté quand même, j'espère. Et du coup, on va s'y engloutir immédiatement, hein. Mais où va-t-on trouver cette force qu'on n'a jamais eue? Parce qu'on ne peut pas la trouver de nos propres mouvements et mérites. C'est pour ça que l'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse implique nécessairement la transverbération explicite, corporelle, de tous les membres vivants, de Jésus vivant sur la terre, avec le roi. Il faut pour ça une charité à arriver à son comble. Ce degré de charité qu'au bout de 70 ans, l'Immaculée Conception a pu atteindre, ce degré de charité qui est en affinité sponsale avec celle de Jésus depuis sa conception. Le degré de charité de Marie n'a pas cessé d'augmenter jusqu'à ce que, on nous disait, nos pères théologiens, biblistes, disaient, jusqu'à ce que, c'est un mot qu'on trouve en grec, on ne le trouve que dans l'évangile de Saint Jean. Jusqu'à ce que. Et bien, jusqu'à ce que, ça augmentait en elle, augmentait, intensifiait, jusqu'à ce qu'elle soit emportée dans une torpeur et un sommeil éternel, à l'intérieur du même degré de charité que celui du cœur de Jésus. Lui, en lui, la charité divine n'a jamais augmenté. Elle était à son comble dès le premier instant de sa conception. Et Marie, c'est par la foi que petit à petit, c'est pour ça qu'elle n'est pas partie, elle n'aurait pas voulu, hein, partir en même temps que Jésus à l'ascension, hein. Alors, sûrement pas, hein. Elle voyait bien qu'il y avait une transformation à accomplir 70 fois, 7 fois, dans tous les êtres humains. Elle devait passer ça pour l'aspirer, ça. Hein. Et donc, elle était toute joyeuse de pouvoir rester, hein, jusqu'à pouvoir continuer à recevoir un degré de charité supérieur à chaque respiration, transformation surnaturelle chrétienne. Et quand elle a atteint ce degré d'amour qui était en affinité, c'est-à-dire en affinité, alors le nouvel Adam, la nouvelle Ève était pouvait réaliser dans la dormition la création du monde nouveau, de la Jérusalem glorieuse, qui glorifie la glorification de la gloire éternelle de Dieu lui-même. Fin de catéchisme. Mais vous voyez, ça, c'est pas une hérésie. L'oraison est l'union transformante jusqu'au mariage spirituel accompli, hein, dans sa plénitude totale, hein. C'est pas une hérésie, je vous assure, je vous promets. Je suis prêtre et tous les prêtres vont vous dire, tous les évêques, tous les papes vont vous dire, c'est pas une hérésie. Hein. Je vais pas hurler sur quelqu'un parce qu'il s'est pas converti. Le prosélytisme, ça. Vous comprenez pourquoi le pape François, il dit pas de prosélytisme. La sainteté, c'est implicite. C'est silencieux. Et plus c'est dans le cri silencieux du Christ qui ne peut plus parler que par l'ouverture du cœur, plus c'est fécond, efficace, sanctifiant. Parce que ce qui est déposé à ce moment-là à l'intérieur de ceux qui ne sont pas catholiques, mais qui sont catholiques sans le savoir, alors eux, ça centuple la grâce sanctifiante, la charité en eux, et toi tu le vois pas, tu dis merde, il s'est même pas converti ce coup. Alors que justement lui, il a peut-être centuplé son truc, tu vois. Peut-être, bien sûr qu'il l'a fait. Et toi, t'as pas fait raison ce jour-là. T'es des milliards de kilomètres derrière lui par rapport à la vie chrétienne. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit ? Le pape là, il ne faut pas faire de cléricalisme, de prosélytisme. Mais il nous casse tout. Il nous casse tout. Hein? J'ai cru entendre ça des milliers de fois. Hein? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr qu'on ne peut pas comprendre ça intellectuellement, théologiquement. Théologiquement, on ne peut pas comprendre ça. Hein? C'est vrai. La théologie, ça fait partie de la religion. Mais on peut l'entendre. S'y enfoncer, s'y engloutir. En ouvrant les portes, que son émanation me remplisse, et à travers moi remplisse toutes les conceptions humaines. Si je fais ça dans ma demi-heure de raison tous les jours, jusqu'à l'ouverture des temps, je continuerai à le faire dans l'ouverture des temps, pendant environ une demi-heure. Ça, c'est la spiritualité catholique du grand monarque. C'est la mission surnaturelle du véritable Israël de Dieu sur la terre. Ah oui, moi je vois pas comment je vais faire parce que tout ça j'ai bien compris, c'est sûrement la vérité, mais il y a un parcours. Il y a un parcours, faites-le, le parcours. Il y a un parcours. C'est donné. Il y a un parcours. Ah oui, moi j'ai pas envie de faire ce pèlerinage. J'ai des tas de trucs à faire, hein. J'ai ma famille, j'ai mon truc. J'ai des maisons à construire, à réparer, hein. J'ai une chaudière, ça va. Hein. J'ai. Hein. Quoi? Quoi? Est-ce que. Je botte en touche tout le temps pour ne pas être dans la ligne pure. Que Dieu demande aujourd'hui, pour le monde nouveau institué par le Saint-Père, mis en place et institué par le Saint-Père. Écoutez, on ne va pas rentrer dans les conséquences négatives de la conscience de culpabilité. Hein. Quand même, on ne va pas faire du psychospirituel hein, pour pardonner dans l'agapé. Il y a un pèlerinage intérieur, il est révélé dans la doctrine infaillible de l'Église avec les mots de l'Église. Qui réalise ce qu'elle signifie, pas parce que je les comprends, mais parce que je les entends et que je dis « Oui, me voici ». C'est très simple. J'ai dit « Oui, me voici ». Le premier jour, Marie a dit « Oui, me voici ». Le deuxième jour, après sa conception, Marie a dit « Oui, me voici » d'une autre manière à chaque fois. Dans le troisième jour, après sa conception, Immaculée. Puis elle a dit « Oui, me voici » le cinquième jour. Et puis elle a dit « Oui, me voici aussi le 17e jour !» Ah, c'est cette grâce que je veux aujourd'hui, camarade. Voilà, bah oui, le 17e jour, c'est une « Ce oui, me voici de Marie », le 17e jour, et le 19e jour. Le 19e jour ! Elle a dit « Oui, me voici, dis donc !» Vous avez compris ? Si vous n'avez pas compris, dites oui, mais voici dans le 17e jour et le 19e jour de Marie dans son immaculée conception, hein, 8 mois et demi avant sa nativité. Ah oui, oui, allez-y, dites oui, mais voici avec elle, en elle, et inséparablement d'elle, vous allez voir. Oh, c'est beau ce parcours aussi, celui-là. Parce que pendant la demi-heure, on va faire ce parcours. des 265 oui de Marie avant sa naissance, pour, ça explose dans les larmes de sa nativité, Maria Santissima Bambina, pour que dans chacune de ces larmes de sa nativité au jour de sa naissance, elle nous ramène à son Immaculée Conception, elle nous ramène donc à la transverbération qui s'est produite une demi-heure après la mort de Jésus, avec le seul coup mortel. Ce coup mortel a anéanti tous nos mouvements à nous, humains, qui nous empêchent d'être dans le mouvement divin. C'est un coup mortel. D'accord ? Et si on fait raison, je vous assure, tous les jours, comme ça, tranquillement, hein, genre, ça prend pas un temps. Et ça te donne une paix dans la chair, Chine. Et à chaque fois, ton degré de charité augmente, puisque c'est le degré de charité du Verbe de Dieu dans la blessure du cœur, mais vivant dans le cœur incarné et vivant de Marie. Hein. Et oui, bien sûr. Mais si tu fais ça, que dit la doctrine infaillible de l'Église, rappelée continuellement par le Saint-Père dans le monde nouveau, institué par lui dans la transverbération eucharistique de Marie et la présence de la coupe qui s'en déverse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si je fais ma demi-heure, ben, du coup, je suis dans la grâce sanctifiante qui a augmenté. Donc c'est vraiment la grâce sanctifiante. Et du coup, pendant tout le reste de la journée, même pendant le sommeil, je suis dans la transformation surnaturelle de l'oraison. Sauf si je dis, bon, maintenant, allez, je vais regarder un film, hein, je vais me détendre un peu, hein. Je regarde un film. Mais quand tu regardes un film, tu es pris par le film, et donc tu quittes l'oraison. Et tu as laissé échapper des instants de prière. Ça, c'est un désastre pour le monde entier, 70 fois, 7 fois. C'est un désastre. Mais si tu ne fais pas un péché consciemment, tu gardes l'état d'oraison, l'union à Dieu. Parce que la grâce sanctifiante, ce n'est pas une grâce actuelle, c'est une grâce sanctifiante. Et la grâce sanctifiante ne disparaît pas, sauf si tu la congèles. Ouais, pendant une heure, le film, c'est vite fait, j'ai besoin de me détendre. Hein. Au congélateur. Hein. Heureusement qu'il y a l'oraison les lendemains, parce que faut pas faire ça tous les jours. Hein. Faire ça une fois, exceptionnellement. Et encore, parce que tu sais pas ce que tu fais. Hein. D'accord. Mais si tu fais oraison cette demi-heure-là, la grâce sanctifiante de l'oraison, elle demeure. Et quand tu t'endors d'ailleurs, tu t'établis dans ta conscience originelle, infaillible, primordiale, en Dieu, en la paternité créatrice de Dieu qui te crée, le Verbe qui t'illumine. Tu regardes, tu t'arrêtes un tout petit peu. Hein? Tu as fait oraison, par exemple, je ne sais pas moi, toi tu fais oraison le matin.
Dans la nuit.
Dès que tu peux. C'est pas toujours la même heure. Hein. Et voilà, c'est bien, c'est pas la vertu de religion. Mais il n'empêche que, allez, 8 heures après, tu t'arrêtes un petit peu. Bah, il faut quand même que tu fasses ton devoir d'État. Hein. Des actes de charité normaux. Enfin, t'as tout de même, enfin quoi. Donc c'est normal. On ne méprise pas la charité surnaturelle des grâces actuelles. On fait sur... C'est normal. Donc, mais je m'arrête. 8 heures après, là, c'était ce matin, j'ai fait à 9 heures. Et puis à 9 heures et demie, voilà, je suis passé. Il fallait faire le petit déjeuner pour... il fallait langer l'arrière-petit-fils parce que de mon arrière-petit-fils parce que ni son père ni sa mère ni sa grand-mère ni son frère ne sont pas capables de le faire parce que donc c'est moi l'arrière-grand-père qui doit le faire puisqu'ils savent plus faire hein, donc il faut que je m'occupe de ça hein, il faut que je fasse la suppléance hein, c'est normal je veux dire je suis responsable quand même et puis je le fais avec la plus grande charité chrétienne possible, bien sûr, parce que cet enfant, c'est Jésus quand même qui est en lui. Enfin, quand même. Hein? D'accord, bon, ça, très bien. Bon, bah, je fais toutes sortes de, je fais des DVD. Tout de même, ça me prend du temps cette histoire, la bande. Et puis il faut que je m'occupe quand même de Poutine. Et il faut lui transmettre un message. Bon, bref, il faut que j'en fasse des choses. Hein, d'accord, très bien. Mais je m'arrête à un moment donné. Je peux m'arrêter quand même. Pas longtemps, pas une demi-heure, non, non. Tu t'arrêtes juste 3-4 secondes. Et je m'arrête. Et tu regardes à l'intérieur de ton âme. Et tu as la même atmosphère que celle que tu as quittée dans l'oraison. Elle n'est pas partie. On le voit, c'est pas parti. C'est toujours le nom de Marie qui porte toute la divinité de Dieu éternellement, qui est en toi. Et ça a été plus intense. Donc, tu t'aperçois que tu as toujours cette présence, pas seulement, c'est pas universel, cette présence transformante. Hein. Elle est là, c'est la même atmosphère. Pendant ces 3 secondes, tu peux regarder, constater qu'en effet, et d'ailleurs, tu pourrais prolonger ces 3 secondes avec 17 secondes supplémentaires. Pour dire, tiens, je vais rajouter une couche, hein, à l'horizon du matin. Bon, ça augmente encore, oui. Ça, oui. En tout cas, l'horizon permet justement donc notre charité et notre transverbération, notre sainteté, la sainteté de toute l'humanité augmente. Ça va ?
Ça va.
La différence entre la grâce actuelle et la grâce sanctifiante. Voilà. Donc, fin de catéchisme.
La messe. Je veux sa messe.
Vous savez, l'homélie fait partie substantielle de la messe. D'accord ? Parce qu'une messe qui n'est pas vécue dans la doctrine infaillible et divine de l'Église, ce n'est plus une messe, enfin... Elle n'a plus du tout la même fécondité, celle de la messe. D'accord ? Bien sûr, une messe, ça vous donne des grâces actuelles en disant oh, « qu'est-ce que je me sens bien dans cette messe ?» Ça, c'est une grâce sanctifiante ou une grâce actuelle ? On va voir si vous êtes capable de répondre. C'est une grâce actuelle, évidemment. Moi, je vais à la messe, comme ça me fait du bien. Je me sens mieux pendant une heure, hein. C'est mieux. Très bien, mais... Il y a une différence entre la grâce actuelle et la grâce sanctifiante. C'est la première chose qu'on apprend aux enfants au catéchisme. Vous vous rappelez de votre fille? Elle a dit ça au prêtre responsable du baptême dans tout le diocèse. Elle a dit, oh, mon père, ça, moi, le baptême, c'est, vous vous en occupez dans tout le diocèse, mais c'est tellement extraordinaire puisque c'est le passage de la grâce actuelle à la grâce sanctifiante. Il l'a regardé. Et elle a dû lui expliquer. Et j'étais à côté d'elle quand elle lui a expliqué. On était à table. Hey, t'es vicaire épiscopal, etc. Bon, si tu veux que je te dise. Et il a répondu, il a dit, Nathalie, il a dit, c'est bizarre, ça me rappelle que j'ai dû entendre parler de ça dans un cours de théologie une fois, il y a 40 ans. Ouais, j'ai dû entendre parler ça dans un cours de théologie, grâce actuelle. Mais, il n'en avait pas fait le fond de sa vie. Mais si tu fais oraison, c'est le fond de ta vie, hein, ça c'est sûr. Hein, on est d'accord, on est d'accord. Voilà. Bon, c'est un enfant, hein, un enfant. Expliquer ça à un enfant quand il a l'âge de 2 ans. Puisque c'est pas intellectuel, ça. Vous dites les mots, l'Immaculée Conception, la grâce sanctifiante, la grâce actuelle, la transformation surnaturelle dans l'Immaculée Conception. L'enfant, il ne sait pas dire une phrase, hein, il ne sait pas dire « Maman, j'ai faim ». À 2 ans, il ne sait pas. Donc, tu lui fais l'enseignement comme ça, sur la grâce actuelle, la grâce sanctifiante, l'Immaculée Conception, la transverbération, etc. à l'enfant. Faites-le. « Oh, mais il ne peut pas comprendre ». Imbécile. Mais bien sûr que si. Il entend, tu verras ses yeux, sa bouche qui s'ouvre. Et s'il est infernal, quand à l'âge de 2-3 ans, c'est infernal un gosse, hein, quelquefois. Moi j'ai vu des gosses que leur mère n'arrivait pas à tenir. Hein. Elle était en train de déprimer, elle voulait s'en débarrasser du gosse. Bon, on a donné la révélation avec les mots justes de l'Église, qu'il ne pouvait pas comprendre, évidemment, mais qu'il recevait dans son âme. Voilà. Et après, c'était l'enfant le plus sage, le plus calme, qui n'ait jamais existé, et plus jamais eu de crise entre elle et son enfant. Et je me rappelle, j'avais fait ça systématiquement, moi, mais une fois, j'avais fait ça avec une de mes cousines. Et elle me dit, mais arrête, Patrick, arrête tes conneries. Et puis, quand elle a vu le résultat, une heure après, puis elle a vu que c'était définitif, elle a dit, eh ben, merci, Patrick. C'est le catéchisme le plus élémentaire. La grâce actuelle, c'est un don gratuit. Mais il ne sauve pas et il ne sanctifie pas. La grâce actuelle, ce n'est pas un don gratuit, c'est un don éternel. Et il sanctifie et glorifie pour l'éternité et il ne peut pas diminuer.